Meeting, bah, je voudrais vous présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore, mais enfin, je ne sais pas s'ils sont nombreux. Enfin, Dominique Mariette, militant de lutte ouvrière, bien sûr, enseignant à la retraite, et qui va nous... Et qui va nous présenter son point de vue sur la situation.
Mais avant, je vais quand même présenter l'autre membre de la tribune, donc Michel Campagnac, lui, toujours enseignant en activité et militant de lutte ouvrière sur Beson, et par ailleurs conseiller municipal lutte ouvrière de Beson.
Je passe donc la parole à Dominique Mariette.
Bien donc, Nathalie Arthaud n'a pas pu venir ce soir. Certains la réclamaient, c'est très très bien. Donc, modestement, je vais pas la remplacer, mais faire l'allocution de ce soir. Travailleuses, travailleurs, chers camarades, chers amis. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette 28e fête de lutte ouvrière d'Argenteuil et de Beson, et d'être venus nombreux. Elle se tient pour la première fois à Beson, car nous avons eu un certain nombre de déboires pour l'organiser. Pour résumer, nous avons reçu une réponse favorable pour obtenir la salle Jean Villard d'Argenteuil, mais nous avons reçu cette réponse le 23 janvier dernier, alors que notre demande d'attribution de la salle datait, elle, d'octobre 2016. Nous ne pouvions plus changer, vu les délais, notre fusil d'épaule, comme on dit, d'autant plus que la municipalité de Beson nous a accordé l'utilisation de cette salle Aragon ce soir, et nous la remercions. La municipalité d'Argenteuil a sans doute voulu nous faire payer la place que nous prenons dans le combat pour maintenir sur Argenteuil une salle des fêtes communale ouverte à tous, mais en tout cas, elle ne nous aura donc pas empêché de nous retrouver une fois de plus pour faire la fête. Mais abordons maintenant le plus important, c'est-à-dire la situation générale qui nous préoccupe bien davantage. Pour l'instant, ceux qui appartiennent au monde de la bourgeoisie, à celui des affairistes et des possédants, ceux-là ont toutes les raisons d'être satisfaits, en particulier du président élu l'an passé, Macron. Pour elle, rien n'a été assez beau. Les coffres de l'État lui sont ouverts. Les mêmes ministres qui répètent à longueur de journée qu'il faut économiser l'argent public n'ont eu aucune hésitation pour décider des baisses d'impôts en faveur du patronat et des plus riches. Réforme de l'impôt sur la fortune, plafonnement de l'impôt sur les revenus du capital, baisse de l'impôt sur les sociétés, etc. À elle seule, la suppression de l'ISF représentera un cadeau de plus de 3 milliards d'euros aux millionnaires de ce pays, des milliards qui manqueront aux services publics utiles à la population. Pour financer leur cadeau en faveur de la minorité de bourgeois, Macron et ses ministres ont baissé les APL, supprimer 150 000 emplois aidés, augmenter la CSG. Le gouvernement rogne sur toutes les dépenses de l'État, en particulier celles qui sont consacrées aux besoins les plus essentiels des classes populaires. Président des riches, Macron l'est jusqu'au bout des ongles, par sa politique, par l'arrogance et le mépris de classe qu'il affiche à l'égard des travailleurs. Aux ouvriers menacés de perdre leur emploi, aux intérimaires contraints de vivre dans l'insécurité permanente, à tous ceux qui, dans les entreprises, subissent ces horaires à rallonge, les cadences de plus en plus insoutenables, la dégradation de leurs conditions de travail, Macron répète qu'il n'est pas le Père Noël et qu'il ne leur fera pas de cadeaux. Au moins, c'est clair. Les travailleurs savent à quoi s'en tenir. Macron est un ennemi déclaré et il continuera à s'attaquer aux travailleurs, à leurs droits et à leurs conditions de vie. Il continuera parce que c'est la politique qu'exige la bourgeoisie de tous ceux qui arrivent à la tête de l'État. Depuis des décennies, tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont imposé les uns après les autres de nouveaux reculs sociaux, repoussant l'âge de départ à la retraite, diminuant la protection sociale, contribuant à la détérioration des services publics. Les ordonnances Macron contre le Code du travail ont été précédées par la loi El Khomri. Les partis traditionnels de gouvernement de droite et de gauche se sont discrédités et l'ancien banquier Macron a pris le relais pour satisfaire la soif de profit des financiers et du grand capital. Dans cette période où l'économie peine à sortir de la crise, quoi qu'ils en disent, les profits faramineux de la classe capitaliste sont le produit de l'augmentation de l'exploitation. Dans les entreprises, le patronat se livre à une guerre contre les travailleurs, contre leurs droits, contre leurs conditions de travail, pour réduire le nombre de jours de congé, pour réduire la durée des pauses, augmenter le temps de travail, etc. C'est vrai dans le privé, mais cela l'est également dans les services publics. Les travailleurs territoriaux ici présents ce soir en savent quelque chose. Tant que le rapport des forces lui sera favorable, le patronat continuera la guerre qu'il mène aux travailleurs pour leur reprendre les quelques droits qu'il avait été obligé de leur concéder dans le passé. Les attaques se poursuivront jusqu'à ce que les travailleurs soient capables de relever la tête et de rendre les coups. Nous en avons la force, car sans nous, rien n'est possible dans cette société. Cette force, il faut l'utiliser, et ce n'est possible que si nous luttons ensemble, intérimaires et embauchés, salariés du public et du privé, chômeurs et retraités. Pour changer le rapport de force que la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, il nous faudra mener des mobilisations déterminées, semblables à celles que les travailleurs ont été capables de mener il y a 50 ans, en mai 68, ou encore avant, en juin 1936. Alors nous, à Lutte ouvrière, eh bien nous sommes convaincus que tôt ou tard, la classe ouvrière relèvera la tête. Aujourd'hui, bien des travailleurs ne croient pas que de telles luttes soient possibles ou qu'elles puissent être victorieuses. Il est fréquent d'entendre autour de nous, dans les entreprises où nous travaillons, qu'il serait trop tard, que les patrons seraient trop forts, que les travailleurs seraient trop divisés. Tous ceux qui n'ont pas baissé les bras et ont conservé la volonté de s'opposer aux menées patronales se heurtent au fatalisme de leurs camarades de travail. Le chômage, certes, pèse sur le moral et la combativité des travailleurs. À cela s'ajoute le poids des déceptions engendrées par la politique des grands partis de gauche et leur reniement et leur recul du mouvement ouvrier. À leur origine, le Parti socialiste d'abord, puis le Parti communiste ensuite, avaient pour raison d'être de représenter les intérêts politiques des exploités. Ils avaient pour perspective le renversement de la bourgeoisie et du capitalisme, l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils étaient opposés à l'impérialisme, à ses guerres, à ses colonies, liés à la classe ouvrière et à ses luttes. Ils cherchaient à peser sur la vie politique pour imposer au gouvernement bourgeois et au patronat des mesures favorables aux travailleurs. À ces époques, lors des élections, les travailleurs les plus conscients exprimaient leurs intérêts de classe en votant pour le parti ouvrier dans lequel ils se reconnaissaient, mais sans aucune illusion sur ces élections. Mais aujourd'hui, ces partis ne représentent plus depuis longtemps les intérêts des exploités. Ils se sont intégrés dans la société bourgeoise. Ils ont eu des ministres et se sont transformés en responsables politiques respectueux des lois capitalistes. Ils ont trahi les intérêts des travailleurs et fait la politique que le grand patronat leur demandait contre le monde ouvrier. Ils ont conservé pendant des dizaines d'années une partie de leur électorat ouvrier, mais c'était en trompant ceux qui leur faisaient encore confiance et parce que la droite au pouvoir était vomie. Cette comédie de l'alternance gauche-droite, les travailleurs n'ont fait le tour et ils ont montré qu'ils n'en voulaient plus, en particulier en s'abstenant massivement dans les élections. En plus de d'écouter les travailleurs, ces partis leur ont fait perdre leur repère de classe. Ils se sont fait les propagandistes au sein du mouvement ouvrier des idées et des valeurs de la bourgeoisie. En remplaçant le drapeau rouge par le drapeau bleu-blanc-rouge, l'internationale par la marseillaise, ils ont préparé le terrain à une Marine Le Pen. L'écœurement vis-à-vis des partis de gauche traditionnels et l'électoralisme ont fait le reste pour que des travailleurs en viennent à la conclusion « Elle, on ne l'a pas essayé », comme s'il n'y avait comme perspective pour les travailleurs que de s'en remettre à des politiciens bourgeois, même les plus réactionnaires. L'indifférence politique et le repli sur soi, ou pire, le soutien à des politiciens du monde bourgeois, comme Le Pen, sont des impasses. Tout ce que le Front National sait faire, c'est de répandre dans les classes populaires le poison de la division entre exploités et dédouaner les exploiteurs de leurs responsabilités dans le chômage et les bas salaires. Et en évoquant ces divisions que tous ces bourgeois veulent introduire dans nos rangs, je ne peux m'empêcher d'évoquer le sort épouvantable fait aux migrants. Ils ont été chassés de leur pays par les guerres et la misère, engendrés directement ou pas par les rivalités des grandes puissances, y compris la France. Et arrivés ici, le gouvernement les traite comme des délinquants, les pourchasse comme des bêtes et cherche à les renvoyer d'où ils viennent. Mais ici, il y aurait de la place pour tout le monde. Personne, ni migrant, ni personne, français ou immigré, ne devrait vivre dans la rue. Il y aurait du travail pour tout le monde et un toit pour tout le monde. Si ceux qui décident de notre sort, du sort de toute la population laborieuse, n'étaient pas seulement guidés par des considérations de fric ou pire, de basse politique. Alors, la seule façon de combattre la guerre entre pauvres, prônée par l'extrême droite, est de lui opposer la conscience de classe des travailleurs, la conscience d'appartenir à une classe dont les intérêts sont fondamentalement identiques, par-delà les origines et la nationalité. Il faut lui opposer la perspective d'une lutte collective des travailleurs pour défendre ses intérêts matériels et politiques face à leurs exploiteurs. Cette perspective peut sembler lointaine aujourd'hui, mais la classe ouvrière relèvera la tête et retrouvera sa combativité. Il y a trop de décalage entre la pauvreté croissante et le honteux étalage des richesses de la classe exploiteuse. La bourgeoisie elle-même, avec son avidité qui la pousse à dépouiller toujours plus la classe ouvrière, finira par provoquer la réaction du monde du travail. Regardez ce qui s'est passé la semaine passée avec la mobilisation dans les EHPAD et les maisons de retraite. Qui aurait parié sur le succès qu'elle a connu? À un autre niveau, je rappellerai la mobilisation des parents, des enseignants et des travailleurs territoriaux qui a largement paralysé l'activité scolaire sur Argenteuil et Boson mardi dernier pour la défense de l'école publique. En tout cas, ce sont là des faits qui font chaud au cœur et qui indiquent la voie à suivre. Alors, la classe ouvrière a connu de nombreuses périodes de recul dans le passé, mais elle a toujours retrouvé le chemin des luttes. À chaque fois, de nouvelles générations de militants ouvriers prennent la relève et s'engagent dans le combat contre l'exploitation capitaliste. Mais il est essentiel que ces hommes et ces femmes ne se mettent pas à suivre les marchands d'illusions qui ne manquent jamais, eux aussi, de surgir. Des politiciens qui, comme Mélenchon aujourd'hui, s'agitent sur le terrain des mêmes illusions électoralistes catastrophiques entretenues par le PS et le PC quand ils avaient de l'influence. Il est essentiel que, même minoritaire, un courant révolutionnaire continue de défendre la perspective de la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Il est nécessaire que renaisse un parti révolutionnaire se fixant cet objectif. Il faut construire un parti qui représente le camp des travailleurs. Tous les travailleurs savent que de tout temps, les patrons ont mené la guerre pour peser sur les salaires, pour augmenter le rythme de travail, pour faire produire plus avec moins de monde. Cette lutte entre le patronat et les salariés qu'ils exploitent est une loi du fonctionnement de l'économie capitaliste depuis qu'elle existe. Dès le début, le mouvement ouvrier s'est développé dans le combat contre la classe capitaliste. Son histoire est faite d'avancées fragiles, souvent remises en cause, et de reculs fréquents, car la classe capitaliste a pour elle le pouvoir de l'argent, sa mainmise sur l'économie et le soutien de l'État. L'objectif du mouvement ouvrier depuis toujours n'est pas seulement de combattre pour obtenir quelques améliorations dans les conditions d'existence des travailleurs, mais il est de contester à la bourgeoisie la direction de la société. Ces deux combats ont toujours été étroitement liés. C'est en contestant radicalement l'ordre capitaliste qu'il est possible de défendre efficacement l'emploi, les salaires et les droits des travailleurs. Et c'est dans les périodes où les travailleurs ont mené les luttes les plus déterminées pour défendre leurs conditions d'existence qu'ils ont été amenés à contester le pouvoir de la bourgeoisie. C'est pourquoi un parti défendant véritablement les intérêts politiques et matériels des travailleurs ne peut être que communiste et révolutionnaire. Un parti communiste et révolutionnaire ne pourra vraiment se développer qu'à travers des luttes, des grèves, des affrontements avec la bourgeoisie et son appareil d'État. Il ne pourra surgir que si des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs reprennent confiance en eux et en leur classe sociale, afin que le combat, commencé dès le début du capitalisme, soit enfin mené jusqu'au bout. Mais dès aujourd'hui, il est indispensable que le courant communiste révolutionnaire, aussi minorité qu'il soit, s'organise, se prépare à l'avenir. Il faut que se regroupent des femmes et des hommes qui ne soient pas résignés à l'exploitation, aux inégalités, à la barbarie du capitalisme et qui ne perdent pas le moral, même lorsque les temps ne sont pas encore à la révolte collective. C'est important et c'est cela qui contribue à la construction du parti nécessaire pour changer la société. Chacun peut jouer un rôle aujourd'hui et sans attendre de grandes luttes pour faire progresser autour de lui l'idée que la tâche de transformer la société dépend de la classe ouvrière et qu'elle en est capable. Car la domination de la bourgeoisie ne repose pas seulement sur la force. Elle cherche aussi à convaincre les travailleurs qu'ils ont besoin des élites, des patrons, des chefs d'État. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école, ce que répètent les médias et tous ceux dont le métier est de formater l'opinion publique. Les travailleurs auraient besoin des patrons parce que ceux-ci leur donneraient du travail. Voilà le mensonge grossier dont on veut nous persuader. Mais c'est l'inverse. Les Peugeot, les Dassault, les Bolloré ne seraient rien sans les travailleurs qui produisent les richesses. Ce sont les travailleurs qui produisent les voitures sur les chaînes de l'automobile, qui font rouler les trains, qui construisent tous les immeubles, qui nettoient les rues et les routes, fabriquent leurs robots et leurs chaussures de luxe. La bourgeoisie est une classe de parasites qui vit aux dépens de la société et se contente d'empocher les profits. Ces parasites ont besoin des travailleurs du plus petit boulot au plus qualifié pour tout faire fonctionner, y compris les ordinateurs qui leur permettent de spéculer, y compris les roulettes de leur casino. Alors, pour faire progresser la conscience de classe des travailleurs, il est nécessaire que dans les entreprises et dans les quartiers populaires, des femmes et des hommes s'opposent quotidiennement à la propagande de la bourgeoisie et affirment que ceux qui sont indispensables, ce sont les travailleurs et que ceux-ci ont les moyens d'organiser la société bien mieux qu'elle ne l'est sous la direction actuelle des capitalistes. Même dans une période de recul comme celle que nous connaissons aujourd'hui, des travailleurs se battent. Cela peut prendre la forme d'une réaction individuelle face à son chef, d'un débrayage ou d'une grève. Quel que soit leur résultat, toutes ces résistances, individuelles ou collectives, à l'exploitation, peuvent contribuer à renforcer le camp des travailleurs, à préparer les luttes collectives de l'avenir, faire vivre ces idées dans les entreprises et les quartiers populaires est une tâche à laquelle chacun peut contribuer suivant ses possibilités. C'est sans doute la plus belle chose à laquelle on peut s'atteler aujourd'hui. Car n'en doutons pas, tôt ou tard, les opprimés se lèveront et ils trouveront dans ces idées la possibilité de mettre tous les moyens de production au service de l'humanité tout entière et de faire en sorte que les immenses possibilités matérielles, techniques, scientifiques soient un jour la base d'une société libre et fraternelle, assurant un avenir de paix et de progrès matériel pour tous. Thank you.
Bien, nous allons conclure le meeting et je vous propose que nous chantions tous le chant des travailleurs, l'International.
Debout les damnés de la terre,
debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, telle l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, fous l'esclave debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain.
C'est dans quel ordre on va après ? Ouais.
Donc vous allez